vous invite, comme chaque dimanche, à bien prendre le temps de lire, de prier avec les textes de la liturgie, et particulièrement les lectures de ce jour, mais aussi parfois, il faut aussi aller lire les prières de l'Église, que l'Église dit en ce jour. Vous savez que je ne vous apprends rien, le dimanche, c'est la source de tout le reste de notre semaine, le reste de notre vie, on peut dire. Et les liturgies dominicales sont là pour à la fois reprendre tout ce qu'a été la semaine précédente, mais aussi pour féconder toute la semaine à venir et nous permettre de bien la vivre et de continuer le chemin personnel de conversion et de relation au Seigneur. Donc je vous invite vraiment à lire, les textes d'aujourd'hui sont particulièrement éloquents. La deuxième lecture d'abord, très rapidement, lisez-la bien, en quelques versets, saint Paul résume bien l'attitude que nous avons, nous chrétiens, vis-à-vis de l'argent et de l'aumône. Il nous dit clairement, vous chrétiens qui avez tout, vous avez la vérité invisible aussi, vous avez reçu la vérité invisible, eh bien, soyez généreux. Et il précise, ne vous mettez pas dans la gêne pour autant, il le dit clairement, il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne, mais il s'agit d'un principe de justice. Nous savons que nous, l'argent ne fait pas le bonheur, mais que l'argent est un bon serviteur et qu'il nous faut savoir partager avec ceux qui ont besoin. Il dit que c'est un acte de justice, c'est ce que l'Église, la doctrine sociale de l'Église va reprendre en disant que le partage des richesses est un élément essentiel d'une société qui fonctionne bien et que nous sommes, nous chrétiens, particulièrement généreux parce que nous savons que notre trésor est ailleurs. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans l'argent, il en faut, on en a besoin justement, c'est pour cela qu'on va aider ceux qui sont le plus en difficulté, mais ce n'est pas là-dedans que nous mettons notre sécurité et notre bonheur. Et il nous dit aussi que Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre pour nous enrichir, et que finalement Jésus reste encore notre modèle. Il nous dit encore que justement ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans le besoin, nous allons les aider, mais eux, ils vont nous enrichir de leur propre richesse. C'est pour cela aussi qu'il est important pour nous, chrétiens, de ne pas fuir la pauvreté, ne pas fuir ceux qui sont en difficulté, mais au contraire, au moins en certains moments, en certaines circonstances, aller vers eux, les côtoyer, pour nous enrichir de leur propre richesse, alors les aider aussi bien sûr, mais les côtoyer, ne pas faire de différence entre les riches et les pauvres, c'est sans doute partie aussi de la caractéristique du regard chrétien sur les uns les autres. On ne fait pas de différence entre les riches et les pauvres, on ne fait pas de différence entre les puissants et ceux, comme on dit parfois, les gens obscurs, ceux qu'on ne remarque pas. Nous tous sont importants, tous nous soucient, nous les portons tous et dans notre prière et dans le désir qu'ils puissent vivre décemment et dans le désir de les aider. Voilà, alors je vous invite à relire ce beau texte. Si nous revenons sur l'Évangile, vous savez, comme pratiquement à chaque fois le dimanche, est lié à la première lecture. L'Évangile nous parle de ces deux miracles imbriqués, qui sont des miracles qui nous enseignent sur ce que Jésus est venu faire parmi nous, ce que Dieu fait parmi nous. Et c'est en lien donc avec le livre de la Sagesse, qui est la première lecture, et qui, lui, nous dit quelque chose d'important qu'il nous faut savoir redire à ceux qui nous questionnent. Beaucoup de gens disent « Oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal, il n'y aurait pas la mort, il n'y aurait pas la maladie. » Et là, le livre de la Sagesse, qui est un livre de l'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu, nous dit clairement les choses. Il nous faut savoir, nous, ensuite, les redire. Ce n'est pas toujours facile, je le sais bien. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons y arriver. Dieu n'a pas créé le mal et la mort. Voilà. Là, c'est bizarre parce que Dieu est tout puissant, il a tout fait, mais il n'a pas créé le mal et la mort. Il nous est dit un peu plus loin qu'il est entré par le démon, et que ceux qui se mettent à ce service du mal, eh bien, savent combien ce n'est pas le chemin, un bon chemin, un chemin de la vie. Toujours est-il qu'il nous apprend, il nous redit, il insiste sur le fait que Dieu n'est pas à l'origine de la mort, du mal, de la maladie, mais c'est une conséquence du démon et aussi du choix libre, parce que les démons finalement ce sont des anges créés par Dieu, bons à l'origine mais qui ont choisi de faire le mal. Hein, c'est ça la doctrine de l'Église. Ce sont des anges qui sont devenus mauvais hein, par choix, parce qu'ils ont au moment de leur création ils ont décidé de ne pas suivre le plan de Dieu. Et puis les hommes aussi peuvent faire le mal et nous le savons. Nous le voyons autour de nous, nous l'expérimentons aussi nous-mêmes. Nous sommes capables de faire le mal. Même des petites choses. Quand on est chrétien, un petit mal a autant de gravité que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a plus le sens du bien et du mal, et qui va être violent, par exemple, mais simplement parce qu'il n'a pas d'autre. Il ne sait pas vivre autrement. Nous savons. Et nous devons être des modèles, tout au moins, nous devons par notre conduite montrer que nous connaissons le chemin, la vérité, la vie, que Jésus est l'enseignement que le Seigneur nous donne. Donc le mal et la mort ne vient pas de Dieu, et donc Dieu ne laisse pas l'humanité perdue, puisqu'il envoie, il intervient dans l'histoire de l'humanité, et il envoie son Fils, Jésus. Qui justement, et c'est l'évangile que nous entendons aujourd'hui, Jésus qui vient et qui vient donner la vie. Hein, c'est vraiment l'évangile d'aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est un jeune enfant de 12 ans, à peine sorti de l'enfance, qui est sur le point de mourir. Alors on peut rencontrer ça dans notre vie quotidienne, malheureusement parfois. Eh bien, non, Dieu veut qu'elle vive. C'est son souhait. Et puis, il y a cette femme aussi qui souffre. Il nous est dit que les médecins n'ont pas arrangé la situation. Alors, j'ai rien contre les médecins, mais ça montre que on va pas tout résoudre par la simple force humaine, y compris les progrès de la science. Il faut savoir que la vie, la puissance de vie, la vraie vie, la vie qu'on a perdue lorsque la mort est rentrée dans le monde, il n'y a que Dieu qui peut nous la redonner. Et c'est pour cela que nous nous tournons vers le Seigneur avec foi et confiance. Seigneur, tu peux faire quelque chose, comme dans cet évangile. Le Seigneur est venu donner la vie. C'est le Seigneur qui est le vrai médecin des âmes et des corps aussi. Hein, même si, mystérieusement, le Seigneur ne permet pas, ne souhaite pas toujours que la santé du corps soit retrouvée sur cette terre, parce que lui, il a une vue plus élevée, qu'on a parfois du mal nous-mêmes à percevoir et à apprécier. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est « Demain, est-ce que je serai en forme ?» C'est ça notre problématique. Mais Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Il voit l'éternité et il voit le bien qu'on peut faire autour de nous, y compris par, alors là, je ne vais pas développer, mais par la maladie, la souffrance offerte, qui peut porter une fécondité qu'on ne comprendra qu'au ciel, pour le bien du monde. Jésus a sauvé le monde par sa croix. Nous-mêmes, nous pouvons, en associant nos propres croix au Seigneur, contribuer au salut du monde et à la transformation du monde. Mais Jésus est le médecin et c'est lui qui donne la vie. C'est cela aussi, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est pour cela que les chrétiens qui faisons partie de la famille de Jésus, la famille de Dieu, mais qui sont aussi le corps du Christ, donc nous continuons la vie de Jésus sur terre 2000 ans après, nous chrétiens. Eh bien, les chrétiens vont toujours agir et se positionner en faveur de la vie. Toujours. Et toujours ils diront, oui, certes, il y a telle ou telle souffrance, telle ou telle situation, mais il doit y avoir un chemin qui préserve la vie, qui protège la vie. Et nous devons être toujours du côté de la vie, tout le temps, pour tous, sans distinction de personne, comme je le dis tout à l'heure. Toujours est-il que Jésus est venu donner la vie. Et l'évangile de ce jour nous dit plusieurs choses, mais il nous dit, alors je vais simplement relever deux aspects. Je vous invite bien sûr à méditer l'évangile. La première chose qu'il nous dit, c'est l'importance de la foi. Que dit Jésus à Jaïr qui demande la guérison de sa fille? Eh bien, il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Facile, il n'y a que ça à faire. Ne crains pas, crois. croissement. Mets pas ta confiance simplement dans les choses de ce monde. Ne vis pas qu'en fonction des choses de ce monde. Ne laisse pas la peur t'envahir parce que tu vas perdre ce qui te semble important en ce monde, mais crois seulement. Mets ta foi. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en lui. La foi est indispensable pour qu'elle porte des effets dans le monde et dans nos vies. Les sacrements, par exemple, dans l'Église, agissent, quel que soit, ils sont réels, quelle que soit même la foi du prêtre et la foi des fidèles qui les reçoivent. Cependant, la foi va permettre, que ce soit la foi du prêtre, du ministre ou bien des fidèles, va permettre d'augmenter la fécondité du sacrement. Par exemple, l'Eucharistie, on peut la recevoir, elle sera réelle, on va la vivre, mais on peut très bien la vivre sans qu'elle change rien dans ma vie, sans qu'elle me guérisse et me donne la vie vraiment. Et pourtant, elle sera réelle. Le Seigneur aura de nouveau donné sa vie pour nous. Il va mourir sur la croix, il continuera à mourir sur la croix et ressusciter pour nous. Et il va se donner dans sa présence, caché sous l'apparence du pain, il va se donner à chacun de nous. Elle peut ne rien produire. Mais si nous mettons notre foi, même si, et c'est le sens du Amen d'ailleurs que l'on dit plusieurs fois à la messe, eh bien, si nous disons notre foi par notre assentiment total à quelque chose qui nous dépasse, à cette œuvre de Dieu qui est en train de se réaliser, eh bien là, notre vie est nourrie, notre foi grandit, notre charité aussi se développe, la vie se développe en nous, jusqu'à pouvoir vivre comme Jésus aurait vécu, ressembler à Jésus par toute notre action. Et c'est là qu'est la clé du bonheur. C'est pas ailleurs, pas dans toute autre chose. Là, le bonheur se retrouve vraiment lorsque nous expérimentons la présence du Seigneur agissante dans nos propres vies, et finalement ça nous comble. Et même si il n'exauce pas toutes nos prières, et on est comblé, nous sommes comblés. Voilà, et la foi implique donc la confiance en Dieu, et la foi doit être audacieuse, nous dit Jésus dans d'autres passages, et même dans ce passage aussi. Le deuxième aspect, c'est le contact. Ce miracle de cette femme qui va toucher Jésus par derrière, et Jésus va dire, mais qui m'a touché alors que tout le monde le touchait? Eh bien, ce contact est une réalité toujours actuelle. On peut toujours continuer à toucher le Seigneur, la foi est quelque chose de concret qui se concrétise dans des actes concrets. Et c'est vraiment la démarche que nous faisons lorsque nous venons à l'Église, lorsque nous communions, pour ceux qui le peuvent, mais en tout cas quand on participe à l'Eucharistie, quand on vit les sacrements, quand on fait un certain nombre de démarches. Dans les premiers siècles de l'Église, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, mais moins présent dans la vie des fidèles, on avait une très grande dévotion aux reliques. On savait que ceux qui devenaient saints, quand on les touchait, quand on les approchait, même quand ils étaient morts, qu'ils avaient quitté leur corps terrestre, eh bien leur corps restait porteur d'une puissance divine qui était celle de Jésus lui-même. Je relis simplement les Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 11, « Dieu faisait par les mains de Paul, de saint Paul, des miracles extraordinaires, à tel point que l'on prenait sur lui des linges ou des mouchoirs pour en toucher les infirmes. Les maladies disparaissaient, les esprits mauvais s'en allaient. » C'est-à-dire qu'avec les vêtements, alors, il y a toujours cette habitude dans l'Église d'avoir ce qu'on appelle les reliques du second degré, c'est-à-dire les vêtements qu'on touchait le saint, qu'on garde. Voilà. Mais tout cela pour dire que le contact est important, que la démarche concrète, que certains considèrent comme un peu trop superstitieuse ou un peu trop superficielle. Non, mettons-y notre foi. De la même manière, par rapport à la, à la vie sacramentelle de l'Église, à l'Eucharistie. Il nous faut apprendre à toucher le Seigneur. Les pères de l'Église ont beaucoup prendre cet évangile comme exemple pour dire voilà ce qui se passe lorsqu'on célèbre la liturgie de l'Église. Les fidèles touchent le pan du manteau du Seigneur qui passe et sont guéris. Il nous faut donc la foi, une foi qui ne craint pas mais qui croit seulement, une foi audacieuse qui met sa confiance en Dieu. Il nous faut le contact, il nous faut des démarches concrètes d'aller vers le Seigneur, prendre du temps avec le Seigneur. L'adoration eucharistique est aussi une démarche importante pour nous aider à laisser la vie entrer dans la nôtre, à laisser la vie tuer notre mort intérieure, notre mort personnelle. Voilà, que le Seigneur nous aide donc à vivre cette vie de foi telle que le Seigneur nous l'enseigne. Amen.